Les sorties de ce mercredi, on va commencer par le Nanni Moretti Trepiani. Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parents, frères ou voisins dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison de vivre ensemble. C'est la première fois que Moretti adapte un roman, notamment celui de l'écrivain israélien Eskol Nevo, au travers d'intrigues croisées et denses, notamment sur le thème du consentement finement analysé, et au-delà, bien sûr, des figures paternelles, et surtout celles qu'il s'est attribuées d'Annie Moretti, celles du juge. On regrette même que cet épisode et sa présence ne prennent pas un peu plus de place dans le film.
Ah, Nanni, bon, oui, c'est effectivement le problème. C'est sa première adaptation littéraire. Je suis pas sûr que ça lui convienne vraiment parce que cette espèce de lucidité qu'il a cultivée jusqu'à présent et qui nous ravissait devient ici une sorte d'amertume avec des hommes et des femmes qui souffrent tous d'une noirceur inhabituelle là aussi chez Moretti qui nous avait habitués à peut-être plus de complexité chromatique. Au fond, tout ça, c'est dû à une sorte d'excès de romanesque. C'est-à-dire, je suis pas sûr que le beaucoup d'histoires conviennent à Nanni Moretti. Moi, je pense qu'il aime bien chanter dans une branche, dans un champ. Alors j'ai dit tout ça, et je le pense, mais comme j'aime aussi beaucoup Nanni Moretti, j'ai été lire dans les cahiers du cinéma de ce mois-ci un texte de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Nicolas Parisère, qui est un formidable cinéaste, et qui signe un formidable texte sur le film de Moretti qui s'appelle Nanni Mosaïque. Alors, écoutez-nous, lisez Parisère, et puis surtout, allez-vous faire votre avis en salle. Voilà.
Ça s'appelle Trepiani.
Trepiani.
A Good Man de Marie Castille, mention char. Benjamin est un homme trans. Il a changé son apparence, son corps féminin à la naissance. Infirmier, il vit avec Aude depuis 6 ans. Elle souffre de ne pas avoir d'enfant. Alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera. C'est un sujet sur la parenté transgenre, un film dossier de l'écran, didactique, démonstratif. Dans une mise en scène conventionnelle, reste la sincérité d'interprétation de Noémie Merlant qui incarne Benjamin, mais noyée dans un film consensuel, Laurent.
Oui, je partage tout à fait votre point de vue. C'est quand même bigrement académique, avec aussi quelques petites facilités. Le fait que ce film qui interroge la société se déroule dans une île, pas déserte, mais pas loin, prive justement toute la dimension sociale. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est dans une sorte d'hors-sol presque idyllique, paradisiaque, quoi, et qui est pas du tout la situation, effectivement, qu'induit le film.
Cry Macho, Clint Eastwood. Mike, star déchu, c'est lui, du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible, se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. La rédemption, la transmission des thèmes chers à Eastwood dans un road movie lent et mélancolique et sentimental, un peu trop. Et son vieux corps de cinéma, il a 91 ans, qui remonte à cheval, enfin sa doublure, et séduit, mais sans doublure, une femme de 45 ans, c'est un peu embarrassant, dans un scénario sur un mode mineur, sauf si on le regarde comme un doc sur ce cinéaste qui peut, quoi qu'il fasse, tout se permettre. On ne critique pas une icône, une image sainte, n'est-ce pas, Laurent? Ou peut-être est-il, comme j'ai pu le lire, au-delà du cinéma, Eastwood.
Oui, parce que je pense qu'avec ce 40e film, vous disiez 91 ans, 40e film, c'est pas mal. Effectivement, il se passe un peu ce qui se passe, par exemple, ici, pour Catherine Deneuve. C'est-à-dire que maintenant, ces acteurs, ces réalisateurs, au fond, on les regarde dans les films qu'ils font, beaucoup plus que leur rôle. Alors oui, il y a des tas de réminiscences, il y a la mule, il y a un monde parfait, il y a la route de Madison, à un moment, qui pointe son nez. C'est une sorte de, comme une dernière cavalcade de ce cow-boy qu'on a tant aimé.
Il y a même des costumes en commun, d'ailleurs.
Il y a des costumes en commun. Il a les jambes arquées, il marche lentement. Oui, le scénario est bancal. Oui, il y a des acteurs qui sont absolument inégaux. Tout ça est vrai. Notre héros est fatigué, mais qu'est-ce qu'on l'aime et qu'est-ce qu'il a du charme.
Cry Macho, ça s'appelle.
Oui.
Entre deux trains de Pierre Filmon. Il y a 9 ans, ils ont vécu une brève histoire d'amour. Aujourd'hui, ils se croisent par hasard sur un quai de gare entre deux trains. Lui arrive, elle repart. Ils ont 80 minutes pour faire le point sur leur vie.
Oui, alors c'est une sorte de Marion, parce que c'est le nom du personnage féminin, de 10 à 11. On voit bien la référence. Ça se passe pas dans le 14e arrondissement, mais du côté de la gare d'Austerlitz, avec des échappées du côté du Jardin des Plantes. C'est un hommage sympathique à Agnès Varda n'en doutons pas. Le problème, parce qu'il y a quand même un problème dans ce film éminemment sympathique, c'est la surabondance de dialogues sursignifiants. Il y a au bout d'un moment, quand même, on peut pas se dire des vérités premières en essayant d'attraper un train. Ça me semble quand même un petit peu problématique. Et reste un personnage féminin. Lui, alors totalement bien bâti, contrairement aux personnages masculins du film, il est incarné, et je tiens à le dire, par... Alors, masculin, c'est effectivement Pierre Rochefort, oui. Et le personnage féminin, c'est Laetitia Haïdo. Oui. Retenez bien ce nom, elle fait vraiment une très très belle incarnation.
Marcher sur l'eau, c'est un doc de Aïssa Maïga, tourné dans le nord du Niger, un petit village victime du réchauffement climatique qui se bat pour avoir accès à l'eau, et notamment avec cette gamine de 14 ans. Qui va chercher l'eau tous les jours.
Oui, alors on est entre le documentaire et parfois des passages fictionnés quand on peut pas mettre du documentaire. Le problème, c'est qu'à force d'hésiter en permanence entre un récit allégorique, poétique, quasi même mythologique sur effectivement le thème de l'eau et un documentaire pédagogique sur le thème de l'eau et sa pénurie, eh ben, en refusant de choisir, la cinéaste perd sur les deux tableaux à la fois et perd même son spectateur en chemin.
Oula. Reste deux inédits du cinéma japonais très vite, il s'appelle Narouzé.
Merveille à l'approche de l'aube en 1960 et Dernier Chrysanthème 6 ans auparavant, ces deux merveilles de Narouzé qui est un contemporain de Dozu avec ce même intimisme formel et magnifique, un minimalisme sublime.
Sinon, toujours à l'affiche, Illusion perdue, bien sûr, bien et compartiment numéro 6.
Et comment donc ?
Un festival à Amiens international, s'il vous plaît.
Oui, le festival international du film d'Amiens depuis hier jusqu'au 20 novembre avec des hommages à Costa Gavras, Jacques Perrin et à Bertrand Tavernier et puis 25 films en compétition s'il vous plaît.
Sinon, 4 cadeaux parce que 4 invités.
Mais exactement, pour Annecy. Alors 4 cadeaux, concept, 4 premiers films de cette année, voilà, parce qu'il n'y a pas eu que vos premiers films, il y en a eu d'autres cette année en 2021 et on s'en réjouit. Pour vous, Annecy Rose, Gagarine, d'un couple de cinéma, tiens, ouais. Fanny Liattard et Jérémy Trouille chez Blackout, très très joli film sur la cité Gagarine d'Ivry-sur-Seine et sur un résistant en quelque sorte qui veut sauver cette cité et qui s'appelle Yuri. Pour vous, Raphaël Balboni, c'est La Nuée de Juste Philippot, un vrai film de genre, c'est chez Capricci, ça nous parle de la façon d'essayer de nourrir le monde, c'est une fable horrifique mais très très réussie effectivement dans ce genre comme ça de réalisme horrible en
et
quelque sorte.
Et chronique familiale en même temps.
Et chronique familiale, vous avez tout à fait raison. Pour vous, Élie Grappe, un film qu'on avait aussi beaucoup aimé, dont on avait reçu l'interprète masculin principal, Wajdi Mouawad, qui est Sous le ciel d'Alice, de Chloé Maslow, chez Ad Vitam, les années 50, le Liban, avant le chaos, là aussi, c'est un très très beau premier film. Et puis, pour vous, Vincent Maël Cardona, Si le vent tombe, premier film là aussi, de Nora Martirosyan, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, ça se passe au Haut-Karabakh, dans un improbable aéroport international, premier de ce petit pays qui essaye de vivre, c'est chez Arizona, et il y a un Grégoire Collin en très grande forme.
Ah oui, sacré acteur Grégoire Collin.
Sacré acteur, absolument.